Il est 8h41.
France Inter, le 7-9, intervenez.
Au 01 45 24 7000, Françoise nous appelle de Castelnau de Ouès. Bonjour Françoise.
Oui, bonjour. Castelnau de Lévis. Alors, je vais vous dire que mon village est à côté de Albi.
Ah, très bien. Dans le Tarn.
Bonjour Monsieur Cohen, bonjour Madame Marteau.
Bonjour.
Madame, je voudrais que vous m'expliquiez, s'il vous plaît, ce que deviendront les salariés français si, avec votre politique, les grands groupes de France décident de mettre la clé sous la porte et d'aller s'installer ailleurs.
Vous savez, cet après-midi, je vais au rassemblement de Whirlpool parce que la direction de Whirlpool a décidé de fermer l'usine d'Amiens. Donc, ces grands groupes industriels et financiers, Continental, Goodyear, n'ont pas attendu l'arrivée de Nathalie Arthaud au pouvoir pour partir, pour aggraver ce chômage, pour mettre sur le carreau des centaines de milliers de travailleurs. Ils continuent. Et donc, moi, effectivement, j'appelle les travailleurs à dire non, à résister à cela, à combattre cela. Des groupes comme Whirlpool qui ont réalisé 800 millions de bénéfices en 2016, ils ferment cette usine pour augmenter leur profit, le dividende pour les grands actionnaires. On ne peut pas l'accepter. Donc oui, ma politique consiste à lever le drapeau des luttes collectives et à mettre en avant cette conscience qu'on ne peut pas rester sous la dépendance de cette classe capitaliste qui ne jure que par ses profits, que par sa rentabilité.
On peut dire que c'est le but de cette campagne, en attendant le grand soir ou la révolution, vous appelez au développement des luttes.
Bien sûr que c'est le but de cette campagne, c'est que moi j'appelle à ce que, au-delà de cette comédie électorale où les uns et les autres nous disent qu'ils auront le pouvoir une fois qu'ils arriveront à la présidence de la République, eh bien il faut regarder la réalité en face, cet ordre social. Il y a une classe qui domine et qui impose une véritable dictature et qui mène une guerre féroce au travers de ces licenciements, de l'augmentation des cadences, l'augmentation du temps de travail, du blocage des salaires. Et cela, aucun des prétendants à l'Élysée ne dit même vouloir le combattre.
Aucun.
Et parce que, vous comprenez, pour mener ce combat-là, il faut être prêt à le mener jusqu'au bout. Moi, je sais que ce sera un combat difficile, que le bras de fer, il sera compliqué. On va nous dire, mais attention, si vous empiétez sur notre volonté, si vous nous empêchez de faire ce qu'on a envie, on partira. Donc voilà, il y aura toutes ces menaces, il y aura tous ces... il faut aussi être prêt à dire, écoutez, vous voulez partir ? Partez. Mais nous, on garde les entreprises, on garde les emplois, on garde les machines, parce qu'on sait faire. Et on n'a pas besoin de faire du 10 ou 12% de bénéfices.
Hugues nous appelle de la région Rhône-Alpes. Bonjour Hugues.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Bonjour.
D'abord, merci pour votre émission et de prendre ma question. Je voulais dire à Nathalie Arthaud qu'il n'y a pas qu'elle qui est communiste dans la campagne, puisque le Parti communiste français, dont je fais partie, anime la campagne aux côtés de Jean-Luc Mélenchon et de toutes les composantes de la France insoumise.
Et donc, une question ?
Mais quelle réaction Nathalie Arthaud aura le 23 avril lorsque, pour quelques points, je respecte ses positions et j'en partage beaucoup, on pourra tous s'apercevoir que la chance historique d'avoir un homme de gauche porteur d'une vraie alternance et d'une autre politique, on sera encore passé à côté après 15 ans de politique de droite et bien davantage depuis des décennies de régression sociale en France. Et que chacun partira avec ses 1, 2, 3, 4% dans son coin, Poutou, Arthaud, etc. Et qu'on laissera le FN et puis un magma sans nom nommé En Marche peut-être s'affronter au deuxième tour, sachant que j'élimine François Fillon, pour lequel j'imagine que les Français, après tout ce qu'il a fait, ne porteront pas son soutien et qu'il ne peut en aucun cas être au deuxième tour. Je trouve ça assez dramatique, la division de la vraie gauche. Et je prends un seul exemple et je m'arrêterai là-dessus. Le 6 mars 1983, je suis un levalloisien historique, même si aujourd'hui j'habite Albertville. Eh bien, il y avait 3 listes au municipal, une liste d'extrême gauche, la liste dirigée par le maire communiste Parfait Jeance à l'époque, et Patrick Balkany en face, un jeune ambitieux de 34 ans, qui prend la ville au premier tour pour 293 voix de la ligne de ballotage. Et on sait ce que Levallois est devenu depuis, et il y a une émission sur France Inter cet après-midi. Au même moment, Nicolas Sarkozy devenait le plus jeune maire de France à Neuilly-sur-Seine, et on sait ce que cela a donné après. Donc j'ai dit à Nathalie Arthaud, je dis aux auditeurs, votons Jean-Luc Mélenchon, rassemblons-nous, travaillons à une vraie alternance de gauche, gauche et cessons les divisions stériles. Merci.
Merci à vous, Hugues. Nathalie Arthaud.
Eh bien, j'ai envie de dire non, Hugues, je suis désolée, votre candidat, Jean-Luc Mélenchon, ne se réclame pas du communisme, ça c'est une première chose. Et puis deuxièmement, nous mettre sur le dos à nous, la division, la gauche, c'est quand même un peu fort de café. Hein. Moi, je ne vois pas de différence entre le programme essentiel. Je vois pas de différence essentielle entre le programme de Mélenchon et de Hamon. Donc, la question, c'est, je crois, c'est à eux d'y répondre. Et par ailleurs,
Non, mais si... c'est l'idée défendue par l'auditeur qu'il y a une occasion historique, là, d'avoir un candidat d'une gauche qui, en apparence, ne fait pas de compromis avec les gauches de gouvernement telles qu'elles ont pu apparaître ces dernières années et qui pourraient accéder au second tour et éventuellement l'emporter. C'est ça l'idée,
si
au fond, défendue par
Il y a moins de voix pour Macron, moins de voix pour Le Pen et que ces voix se portent sur Jean-Luc Mélenchon, ça sera tant mieux. Moi, je pense que c'est tant mieux.
Tant mieux.
Mais oui, bien sûr. Et s'il y a plus d'électeurs, plus de jeunes qui veulent dire leur opposition aux inégalités, à l'injustice sociale, ça va dans le bon sens. Mais je leur dis attention, attention. Si Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République, il se heurtera comme tous les autres, comme Mitterrand, comme Jospin, comme Hollande, au mur de l'argent. Et ces beaux discours, eh bien, ils n'y feront rien.
Ça veut dire qu'il ne pourra pas appliquer son programme.
Mais il n'appliquera pas son programme.
Ah, tout à l'heure, vous disiez que son programme n'était pas assez à gauche. Là, maintenant, vous dites...
Tout à l'heure...
Il n'appliquera pas son programme.
Ah, mais de toute façon, d'ailleurs, il le dit. Hein, y compris dans son programme, dans ce qu'il dit. C'est qu'il promet effectivement des améliorations du sort des classes populaires, mais en disant, attention, attention, je ne demande rien au patronat. Je ne veux pas le faire payer davantage. D'ailleurs, je baisse même l'impôt sur les bénéfices de 33% à 25%. Il n'aura rien à payer. Pourquoi ? Parce que avec moi, Jean-Luc Mélenchon... avec moi, Jean-Luc Mélenchon, l'économie va repartir, je vais remplir les carnets de commandes, et donc tout ira bien, tout ira pour le mieux. Voilà. Eh bien, moi, je dénonce cela. Je pense que c'est propager de graves illusions sur ce qu'est l'économie capitaliste. Aujourd'hui, la plupart de ces grands groupes, on sait que l'argent qu'ils réalisent, eh bien, ils l'investissent pas. Hein, ils le mettent dans la sphère financière. Vous savez, c'est l'industrie financière, c'est la dernière industrie qui a été créée, l'industrie financière, qui effectivement provoque ces bulles qui menace d'éclater à tout moment. Mais donc voilà, moi, je dis exactement comme ce qui s'est passé en Grèce avec Tsipras, qui avait aussi suscité beaucoup d'espoir dans la classe ouvrière. Eh bien, il se heurtera, oui, à ce diktat-là. Et comme
Mélenchon
Tsipras...
Mélenchon élu, vous lui prédisez un destin à la Tsipras.
Et à la Mitterrand, et à la Jospin, et à Hollande. Vous savez, Hollande, en 2012, il expliquait aussi que son ennemi, c'était la finance. Et puis, il a suffi que Monsieur Mittal, le PDG d'ArcelorMittal, déboule dans son bureau pour que finalement il accepte la fermeture de Florange, pour qu'il la justifie. Donc la réalité c'est celle-là, le mur de l'argent, vous savez, les socialistes quand ils arrivent au pouvoir, ils le redécouvrent à chaque fois, le mur de l'argent. Nous on sait qu'il existe et ce mur de l'argent, pour le renverser, eh bien il faudra une force sociale, il faudra des mobilisations puissantes, il faudra la conscience des travailleurs d'avoir à se battre par en bas, imposer leurs intérêts élémentaires, avoir un emploi, un salaire. Donc voilà, moi dans cette campagne, je fais pas de promesses. Je dis oui, il faut lever le drapeau des luttes collectives et mettre en avant ses intérêts, ses besoins. J'appelle les travailleurs, les ouvriers, les chômeurs à le faire fièrement, même si on est à contre-courant.
Maria nous appelle de Fontainebleau. Bonjour Maria.
Oui, bonjour Monsieur Cohen, bonjour Madame Arthaud.
Bonjour.
Alors je vous appelle pour une question très simple. Pour vous, travail, rythme avec salarié, salaire, chômeur. Moi j'étais au chômage. J'ai monté ma petite structure de formation de langue. Je suis traductrice. Formatrice de langue, d'accord. Je gagne très bien ma vie. Je travaille au-delà de 35 heures, donc je compte pas mes heures, Mais pourquoi toujours ce discours qui n'est qu'en faveur des travailleurs salariés? Quelle est la part des indépendants? Sachant que mes parents, ils étaient communistes. J'ai fui un pays qui est en guerre. J'étais réfugiée en France. Donc, pourquoi ce discours? Pour nous faire sentir, vous devez avoir honte si vous gagnez bien votre vie. Pourquoi ?
Non, bonjour Maria, c'est pas mon discours. Je m'adresse à l'ensemble des travailleurs, y compris à ceux qui vivent de leur propre travail. Oui, aux indépendants, aux travailleurs libéraux, aux petits artisans, aux commerçants. Et ce que je dis, c'est que y compris eux, à leur façon, ils sont exploités en fait par le grand capital. Hein. Vous savez, même le petit artisan, le petit commerçant, il passe beaucoup de son énergie à rembourser ses crédits, négocier auprès de la banque des découverts et à galérer avec le propriétaire qui lui loue son pas de porte, etc.
Donc ce sont aussi des travailleuses, travailleurs.
Bien sûr. Alors je sais bien oui, ce sont aussi des travailleuses et des travailleurs. Et bien sûr, souvent on caricature ce que je peux dire, mais moi je pense qu'en fait notre sort est complètement lié. Et je dirais même, vous savez, il y a différents niveaux d'exploitation, même au sein du monde du travail. Il y a beaucoup de salariés. Il y en a certains qui s'épanouissent dans leur travail, qui sont bien payés, qui n'ont absolument pas le sentiment d'être exploités. Et en même temps, j'ai envie de leur dire, il n'y a pas d'échappatoire. En réalité, on n'échappe pas au pourrissement de cette société parce qu'on est rattrapé. On est rattrapé par les inégalités, par ces injustices qui se traduisent par la violence de la société, que ça soit l'insécurité, la délinquance, le terrorisme, les guerres. Donc on n'y échappe pas. Moi, je suis convaincue qu'on est vraiment lié par un sort commun et que quelque chose, je sais pas moi, ça me paraît être du bon sens que de dire que les grands moyens de production, je pense aux grands groupes encore une fois, industriels, financiers, ceux qui produisent l'énergie, la grande distribution, devraient être gérés collectivement, par les salariés, par des représentants de la population, des consommateurs, collectivement. Ça me paraît une idée, mais vraiment de bon sens, parce que justement, on est tous dans la même galère, et si on veut maîtriser notre économie, si on veut y compris lutter contre la pollution, contre ce qui est en train de devenir aujourd'hui cette planète, il faut faire ça, il faut organiser ensemble, rationnellement, cette économie.
Sans patron ?
Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin d'une classe capitaliste qui domine. Qui est plein d'initiatives, mais très bien. Mais encore une fois, qu'il y ait cette puissance-là qui s'abatte sur la tête de tous, moi, Et vous comprenez cette classe-là, si elle dirigeait bien l'économie. Mais ce n'est pas le cas. Regardez cette crise économique dans laquelle on est plongé. On nous dit qu'ils investissent, mais ils n'investissent même pas. Pour investir, il faut qu'ils aient le soutien de l'État, il faut qu'ils soient incités. Il faut que, oui, on peut se passer de cette classe qui est complètement parasitaire.